Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Faire le portrait d'un homme et de sa pensée à travers ses archives, c'est le pari poétique et audacieux du Musée d'art et d'histoire du judaïsme qui consacre une exposition et un catalogue aux archives de Walter Benjamin, philosophe, écrivain et critique. À travers 13 étapes, c'est un voyage dans la pensée et les traces de l'auteur, par le biais de ce qui reste de ses collections de jouets ou de cartes postales, de ses carnets, ceux où il consignait les mots de son fils, ceux où il notait ses lectures, à travers aussi des listes ou des photographies et surtout au regard de ce qu'il a classé et confié au fur et à mesure de ses déplacements et de l'étau qui se resserrait autour des Juifs. Mais l'exposition est aussi une évocation d'un homme en mouvement, puis d'un homme en exil qui fuyait les persécutions nazies et qui n'a pu être sauvé malgré les efforts de ses amis. Walter Benjamin a préféré se donner la mort dans un petit village du sud de la France en 1940, croyant ne plus avoir d'issue. Avec nous pour parler de ce personnage, Florent Perrier, qui est donc le conseiller scientifique de l'exposition. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, tout le monde ne connaît pas Walter Benjamin. Est-ce que vous pouvez nous brosser, alors à grands traits, un portrait de cet intellectuel et de ses domaines de recherche ?
Alors ses domaines de recherche sont très très nombreux, très diversifiés. Mais disons qu'il a un ancrage tout particulier d'une part dans le domaine de la littérature allemande, puisque c'est un philosophe allemand né à Berlin dans une famille de la bourgeoisie juive assimilée, et que c'est vraiment son point de départ de prédilection, la littérature allemande, que ce soit le drame baroque allemand du XVIIe siècle ou la littérature qui lui était plus contemporaine. Mais parallèlement à cela, la culture française, la littérature française, la poésie française avait une importance déterminante dans son parcours, et cela très tôt, puisqu'il a notamment traduit les tableaux parisiens qui ont été publiés. Sa traduction a été publiée en 1923, mais enfin ils ont été traduits bien plus tôt par lui. Et donc il y a ce double aspect, disons, culture allemande d'un côté, culture française de l'autre, qui détermine largement tous ces champs de recherche, que ce soit leurs échanges, leurs points aveugles aussi, sans doute, et puis voilà les liaisons que lui a pu mettre en place de son vivant avec des intellectuels des deux rives, si on peut dire.
Oui, c'était aussi, Florent Perrier, un voyageur, Walter Benjamin. Il a fait beaucoup de séjours à l'étranger.
Oui, c'était quelqu'un qui ne tenait pas en place, en tout cas pendant la première partie de son existence, puisqu'à partir de 1933, on va l'obliger forcément à ne plus se déplacer beaucoup. En tout cas, il n'aura plus guère de choix pour les lieux qu'il aura à choisir. Mais effectivement, auparavant, il va énormément voyager en Europe, par goût personnel, pour découvrir des cultures, et puis aussi petit à petit, progressivement, et même avant 1933, par nécessité économique.
Et c'est aussi un homme qui a le goût de l'amitié, de la conversation. On voit très bien d'ailleurs à travers cette exposition les liens qu'il tisse au fur et à mesure de ses voyages, de ses lectures, de ses rencontres avec des photographes, des penseurs, des philosophes, des artistes de manière générale.
Mais c'est surtout par sa correspondance qu'on peut constater cela, parce qu'il avait un goût pour les lettres qui était partagé par nombre de ses contemporains. Mais enfin, sa correspondance est une œuvre immense à bien considérer à côté de ses essais, de ses critiques. Et effectivement, il était en relation avec énormément de gens, et il a surtout tissé des amitiés véritables avec quelques personnes privilégiées qui, toute leur vie, l'ont suivi et soutenu.
Alors l'exposition se concentre sur le séjour parisien, sur l'exil à partir de 1933 de Walter Benjamin. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce parcours qu'il a amené en France finalement ?
Alors l'exposition est en deux parties. Il y a effectivement une seconde partie qui est qui a trait plus particulièrement à l'exil, à son séjour parisien à partir de 1933 et au soutien qu'il a reçu pendant cette période. Mais la première partie, par contre, concerne l'ensemble de son parcours intellectuel et s'intéresse à toutes ses archives, que ce soit avant ou après l'exil. Donc il faut bien considérer ces deux volets, sachant que le deuxième volet a été rajouté spécifiquement pour l'exposition du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, puisque le premier avait déjà été présenté à Berlin seul en 2006.
Ah oui, alors est-ce que vous pouvez nous dire, Florent Perrier, ce qui l'a finalement amené à choisir la France en 1900, enfin voilà, à partir du moment où il s'installe pour cette grande période d'exil?
Eh bien, c'est essentiellement le goût qu'il avait pour la littérature, la poésie française. À partir de 1913, il va faire de très fréquents séjours en France et essentiellement à Paris, encore en 1926 pendant plusieurs mois. Et voilà, il maîtrisait admirablement la langue française. Il commençait à connaître un certain nombre d'intellectuels, d'écrivains, de personnages éminents dans le domaine de la culture française. Donc il espérait trouver là des appuis pour son existence. Il s'est largement trompé, mais ça, bon, il ne pouvait sans doute pas le prévoir auparavant. Et il n'avait pas tellement d'autres solutions non plus. Il ne connaissait pas la langue anglaise. Il était assez rétif à l'idée de partir aux États-Unis, bien qu'à la fin, vers 1939-40, ses amis feront tout pour essayer de lui obtenir un visa, en tout cas lui permettre de rejoindre les États-Unis. Voilà, c'était un peu l'évidence, et c'était un peu l'évidence pour de très nombreux autres exilés allemands, qu'ils soient juifs ou non, que de rejoindre d'abord Paris, qui était un lieu, disons, aussi de résistance politique important à partir de 1933. Les choses changeront par la suite, mais en 1933, c'était, oui, c'était la voie la plus simple, disons.
Alors, il faut donc souligner que cette exposition... travaille autour des archives de Walter Benjamin, donc c'est une exposition assez peu ordinaire. On se promène donc devant des sortes de coffres de bois qui sont ouverts, dans lesquels on peut voir alors des pages arrachées, des morceaux d'enveloppes, des notes prises sur des tout petits carnets. Voilà, donc on voit vraiment c'est ça que je voudrais savoir, si on voit ce qui reste, ce qu'il a réussi lui à mettre à l'abri, ce que les autres ont récupéré. Comment est-ce qu'on peut définir un peu ce qui est montré dans l'exposition?
C'est d'abord un choix subjectif de la part des commissaires de l'exposition que de montrer ces 13 stations, en quelque sorte, qui sont à chaque fois des regroupements thématiques, mais aussi esthétiques et poétiques, autour, par exemple, ici, ce sont les carnets de Walter Benjamin. Là, ce sont plutôt les annotations sous forme de graphismes. Encore à côté, ce seront les cartes postales. Donc, des regroupements subjectifs, esthétiques, qui ne sont qu'une partie des archives qui ont été préservées de Walter Benjamin, parce que bon, ces archives, évidemment, ont connu un destin très compliqué. Beaucoup ont été perdus avant 1933 et en 1933 à Berlin, mais une grande partie malgré tout a été sauvegardée en passant de Berlin à Paris, de Paris ensuite à l'Allemagne, de l'Allemagne à Moscou, puis à nouveau de Moscou à Berlin, pour finalement être toutes réunies à l'Académie d'Erkunst aux archives Walter Benjamin. Donc il n'y a pas du tout l'exhaustivité, enfin l'intégralité des archives conservées, mais simplement un choix effectué, parce qu'en réalité on peut dire que une grande majorité des textes, des manuscrits de Walter Benjamin ont été sauvegardés.
Alors, est-ce qu'on peut revenir aussi sur ce point qui est souligné à la fois dans le catalogue et dans l'exposition, sur la conscience qu'avait Walter Benjamin d'organiser, de préparer ses archives, de les classer, de se faire lui-même l'archiviste de son travail?
C'est une conscience qu'il avait très tôt, très en amont de l'arrivée de Hitler au pouvoir. On peut dire même que c'est bien déconnecté de ce rapport à l'imminence de l'installation du nazisme en Allemagne. Il avait le sentiment que ces archives, que ces textes devaient lui survivre, et donc qu'il fallait les disséminer, les faire circuler, en multiplier les exemplaires, donc les recopier ces manuscrits, pour que certains de ses amis les plus proches, parmi lesquels Gershom Scholem ou Gretel Karplus, thésaurisent en quelque sorte toutes ces archives chez eux et constituent un fonds de son vivant dans lequel il pourra puiser par la suite, puisqu'il va redemander à un moment à Gershom Scholem ou à d'autres amis de renvoyer tel manuscrit pour le compléter, et une fois complété, il va le renvoyer à nouveau à la personne qui l'hébergeait. Donc il y avait comme ce pressentiment que lui, avec l'existence qu'il allait mener, n'allait pas pouvoir conserver auprès de lui physiquement toutes ses archives et qu'elles seraient mieux préservées auprès de ses amis. C'est très étrange parce que jusqu'à l'âge de 40 ans, il vivra chez ses parents en partie. Donc on aurait pu penser que oui, ça aurait pu être conservé près de lui, mais non, il y avait comme ce sentiment qu'auprès de ses amis, elle serait dans un abri plus sûr.
Est-ce qu'on peut imaginer, Florent Perrier, que c'était aussi parce que Walter Benjamin, de par sa manière de réfléchir, fonctionnait par correspondance, fonctionnait par des liens, et qu'il avait peut-être besoin d'adresser sa pensée à quelqu'un, de la même manière qu'on adresse une lettre, une carte postale, et qu'il avait besoin d'avoir un interlocuteur et de penser à quelqu'un, peut-être en élaborant ses manuscrits?
Oui, il avait besoin de retour sur son travail, ça c'est évident. Mais je crois qu'il y avait quelque chose d'au-delà de ce seul aspect. C'était vraiment aussi pour que ces personnes conservent ce travail. Et en définitive, même si elles n'avaient pas d'avis à lui restituer sur le tel ou tel manuscrit envoyé, parce que bon, parfois il envoyait un carnet tout fin qui faisait une soixantaine de pages, mais sur lequel il pouvait y avoir 30 manuscrits ou 30 essais différents. Bon, il n'allait pas demander à la personne qui connaissait les étapes précédentes d'ailleurs d'élaboration de ces manuscrits de donner un avis. Donc ça allait au-delà de ça. Quand il s'agissait vraiment d'échanges intellectuels sur tel ou tel manuscrit, ça ne se faisait pas sous la forme « je t'envoie le manuscrit ». Non, il envoyait des étapes intermédiaires, etc. Et puis il en discutait énormément dans sa correspondance. Donc ça dépassait la seule nécessité d'échanges intellectuels. Il y avait vraiment ce souci que voilà, ça soit conservé.
Alors on voit aussi à travers cette exposition le Walter Benjamin, le collectionneur, c'est-à-dire qu'il collectionnait donc les jouets d'enfants, il collectionnait les cartes postales, mais il collectionnait aussi les mots de son propre fils. C'est un collectionneur, alors on pense souvent à Pérec, moi j'ai beaucoup pensé à Pérec pendant cette exposition, le fait de jouer avec les mots, de faire des listes, de collectionner, de classer, il y a comme ça quelque chose, un esprit qui fonctionne presque comme un jeu, enfin, il y a quelque chose de très ludique aussi dans sa manière de fonctionner.
Oui,
de...
oui, il y a le penser classé effectivement de Pérec qui est sous-jacent de manière rétrospective quand on regarde le travail de Walter Benjamin. Et effectivement, il avait un rapport très, très singulier et très intime avec l'idée de jeu. Et, dans l'exposition, on montre aussi des rébus qu'il avait pu écrire, des devinettes qu'il avait pu aussi concevoir. Et il aimait à construire, déconstruire ses manuscrits, ses textes, à changer de place, à recomposer comme s'il avait tous les fragments de phrases comme ça sur une table et qu'il s'amusait effectivement à les coller ici et là et à changer en permanence. Donc il y avait cette dimension de jeu effectivement est très, très très présente et très importante. Et d'ailleurs, au-delà de ça, quand on regarde en détail la construction de certains textes, ça relève au-delà du jeu presque du tour de passe-passe ou du tour de magie parce qu'il aimait bien aussi à dissimuler certaines sources ou à occulter certaines citations mais pour y revenir de manière détournée donc c'était quand même un jeu qui n'était pas simplement ludique qui était aussi une construction intellectuelle destinée voilà, à s'approprier un matériau sans complètement le déformer non plus, mais à lui donner des couleurs différentes par une recomposition permanente.
Et est-ce qu'on a quelques explications, quelques pistes sur le fait qu'il ait collectionné comme ça des objets, des cartes postales, des jouets ? On sent que c'était quelqu'un qui aimait thésauriser les objets aussi.
Oui, alors... Il donne l'explication, notamment pour les cartes postales, d'une collection qu'il aurait commencé avec les cartes postales envoyées par sa grand-mère, qui était une grande voyageuse. Et il dit d'ailleurs que s'il adore les voyages et les cartes postales, c'est à cause de sa grand-mère, parce qu'elle voyageait beaucoup et lui envoyait systématiquement des cartes postales de ses lieux de villégiature. Donc voilà, c'est une collection née de l'enfance, c'est une collection née des timbres qu'il recevait ou que son père lui faisait passer, par exemple. Il y a beaucoup de textes dans Enfance berlinoise notamment, qui reviennent sur ces collections aussi de marrons, d'épines, de feuilles. Donc c'est quelque chose qui est très lié à l'enfance et qui va toujours garder en s'intéressant effectivement aux jouets dont il reste simplement des photographies, en s'intéressant aux livres pour enfants. Là par contre, une grande partie de sa collection a été préservée, elle est conservée maintenant à l'université de Francfort. ou aux cartes postales, mais au-delà de ça, dans ses textes même, on peut dire qu'il collectionnait les citations. Son livre sur l'origine du drame baroque allemand est un espèce de collage, de montage de près de 600 citations. Son livre Paris capitale du 19e siècle, qui est inachevé et posthume, n'est qu'un ensemble de citations accolées les unes derrière les autres, sans qu'il y ait un ordre véritablement. Mais voilà, il collectionnait les citations, il collectionnait, mais pas pour leur aspect, c'était pareil d'ailleurs pour les cartes postales ou pour les jouets pour enfants, pas pour leur aspect ciselé ou pour l'esprit que pouvaient contenir ces citations, où ça n'était pas forcément des jouets parfaitement étincelants. Au contraire, il s'intéressait plutôt aux jouets populaires, comme il s'intéressait plutôt à des citations qui révélaient des choses cachées, des aspects cachés de l'histoire.
Oui, et peut-être on peut aussi faire ce lien. Vous évoquiez le fait qu'il est resté proche de son enfance. Peut-être aussi le fait de travailler sur des matériaux qu'il collectionne, sur des matériaux qui font partie de son passé à lui. C'est une manière aussi, pour lui qui a travaillé autour de la question d'histoire, d'établir un lien entre le passé et la pensée qui, elle, est présente.
Oui, il y avait cette nécessité de saisir le passé au présent. En tout cas, il y avait une urgence d'utiliser son travail sur le passé, que ce soit sur l'histoire ou sur sa propre enfance, pour un geste qui soit essentiellement un geste politique fait au présent, de sauvegarde, de sauvetage notamment. Donc effectivement, il n'y avait pas de nostalgie, comme on le dit souvent, je crois, chez Walter Benjamin. Il n'y avait pas ce rapport nostalgique à son enfance, parce que en définitive, adulte, il portait sur son enfance un regard qui était déjà teinté de son regard politique, qui était celui d'un homme en exil ou d'un homme qui avait perdu, qui avait été déclassé véritablement par rapport à sa condition d'origine. Donc il n'y avait pas cette nostalgie, il y avait une distance, et sans doute que la collection, ne serait-ce que de textes sur son enfance, puisque Enfance berlinoise, c'est aussi une petite collection comme ça de textes sur son enfance, lui permettait d'acquérir une distance et donc de réintégrer dans son présent quelque chose qui sauvait de cette enfance sans que ce geste-là soit teinté de nostalgie, en effet.
Et est-ce que vous pouvez évoquer peut-être pour nous le fameux carnet où il notait les mots, expressions de son fils et la façon finalement dont naissait le langage chez ce jeune enfant ?
Il s'est beaucoup intéressé, Walter Benjamin, à la question du langage très tôt, d'un point de vue théorique très, très aigu. Hein, ses textes sur le langage sont très difficiles d'accès, presque ésotériques. Mais là, chez son fils, c'était moins la naissance du langage qui l'intéressait. Il me semble que les déviations, le fait que, parce que son fils apprenait à parler, les mots pouvaient être déformés. Et ça, il s'intéressait beaucoup à cette espèce de condensation dans les mots, cette déformation, cette tournure donnée aux mots qui faisait que tout d'un coup, quelque chose d'inattendu surgissait à travers cet apprentissage du langage. Et ce qu'il va collectionner en quelque sorte dans ce petit carnet, les mots et locution du fils sont essentiellement ces raccourcis que son fils faisait, ces torsions que son fils faisait subir au langage et lui s'intéressait à ce résultat-là.
Oui, puis quand on sait qu'il a été proche des surréalistes, on peut imaginer aussi que c'était, alors avec aussi la psychanalyse qui commençait, que c'était aussi une approche qui était dans l'air du temps et qui correspondait bien à sa pensée aussi.
Bien sûr, oui, il était très intéressé par le surréalisme, effectivement, par le rapport au rêve, et tous les mécanismes du rêve et tous les mécanismes que le rêve fait subir au langage. Donc effectivement, il y avait aussi ça qui entrait en jeu dans ce petit carnet, oui.
Alors peut-être on peut évoquer alors le volet peut-être plus biographique de cette exposition et suivre un peu les derniers moments de Walter Benjamin donc en France, la façon dont il est emprisonné dans un camp de réfugiés dont ses amis vont essayer de le faire sortir et la façon dont vous parliez de déclassement dont il vit effectivement ce moment qui pour lui est d'une violence inouïe.
Alors le déclassement il le connaîtra bien avant, hein. Bon, on peut dire qu'effectivement avec 1933, il n'y avait pas d'autre solution que ce déclassement, mais il était déjà sensible auparavant parce qu'on lui avait refusé l'habilitation à l'université. Donc il savait que cette carrière était terminée pour lui et donc il n'avait plus celle que de journaliste et d'essayiste qui s'ouvrait devant lui. Carrière qu'il a dans laquelle il a eu un certain succès. C'était quand même un journaliste, un essayiste, un critique très, très reconnu, mais par ses pairs, pas forcément par le grand public. Et puis, il n'avait pas d'autres sources de revenus. Donc là, il y avait déjà une forme de déclassement économique. Et effectivement, à partir de 1933, quand toutes les portes des journaux, des radios vont se fermer pour lui en Allemagne, ça sera l'exil à Paris. Et là, il comptait beaucoup sur ses premiers appuis, ses premiers amis français. Mais finalement, il se rendra vite compte que le milieu intellectuel français restait très hermétique. En définitive, qu'il y avait quelques personnes ici et là qui étaient en place et qui n'allaient pas en bouger, et qu'il n'allait pas réussir à écrire, par exemple, pour la Nouvelle Revue Française. Adrienne Monnier va beaucoup l'aider pour essayer d'écrire dans certaines revues, mais ça sera malgré tout relativement confidentiel, et il vivra là à partir de 1933 dans une vraie précarité, changeant en permanence de logement, n'habitant que dans des sous-locations d'autres exilés allemands. Donc il n'avait pas les moyens de se payer véritablement un appartement, à peine une chambre en sous-location. Et Gisèle Freund rapporte que pendant toute la période de l'exil, donc entre 1933 et 1940, elle ne l'a connu qu'avec un seul et même costume, toujours plus élimé, dont les manches remontaient au fur et à mesure des années, parce qu'il n'avait pas les moyens de s'en payer un autre. Donc effectivement, il y avait un véritable déclassement pour lui, mais qui se retournait, avec une conscience politique d'autant plus vive, en quelque sorte. Il aurait pu se réfugier dans une forme d'accablement ou de nostalgie pour son existence bourgeoise antérieure, pour son enfance, mais non, ça lui faisait donner un tour encore plus radical, disons, à son opinion politique, et il faisait face malgré tout. Et si en définitive il s'est suicidé dans un petit village des Pyrénées espagnoles en septembre 1940, c'est parce qu'il était malade, c'est parce qu'il était épuisé, mais c'est pas parce qu'il était abattu, ça je pense pas.
Pourtant, c'est vrai que ça pourrait faire penser à l'abattement, quelqu'un qui se suicide.
Oui, mais c'était aussi en quelque manière un geste de résistance et un geste politique, hein, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. On sait que de très nombreux exilés arpenter la France dans tous les sens avec une boule de morphine dans la poche si jamais ils allaient être arrêtés, livrés à la Gestapo, etc. C'est ce qui s'est passé pour Walter Benjamin. La police espagnole l'a menacé de le restituer aux autorités françaises et donc à la Gestapo. Et il a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de connaître le sort des autres exilés, des autres juifs, et un sort qu'il connaissait parfaitement à l'avance. Il était parfaitement conscient de ce qu'il attendait, ça. C'était très clair. Donc je pense que c'était pas une forme d'abattement, c'était une grande lucidité que de mettre fin à ses jours dans ces conditions-là.
On sait, Florent Berryer, qu'il avait sur lui une serviette qui contenait un manuscrit. Alors, on ne sait pas ce qu'est devenu ce manuscrit. On sait qu'il l'a protégé jusqu'au bout. Il est mentionné, je crois, dans les objets qu'il avait au moment où il a été arrêté. Alors, on pense bien sûr au manuscrit d'Irène Némirovski qui a été protégé par ses filles. Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce qu'était ce manuscrit, de ce qu'il a pu devenir ?
Alors c'est assez clair, oui, ne serait-ce qu'en lisant sa correspondance, on sait déjà ce qu'il y avait dans cette fameuse serviette qui a été un peu montée en épingle, si je puis dire. C'est devenu un vrai mythe, mais oui, c'était sans doute une des versions des thèses sur la philosophie de l'histoire. Le manuscrit sur Paris capitale du 19e siècle avait été mis à l'abri auprès de Georges Bataille à la Bibliothèque nationale. Il avait déjà été photocopié par Gisèle Freund à la Bibliothèque nationale à de très nombreuses reprises, et les photocopies envoyées à New York, donc tout ça était déjà protégé. Donc ça n'est sans doute qu'une des versions des thèses sur la philosophie de l'histoire. Il en a donné une autre à Pierre Missak, une autre à Hannah Arendt. Voilà, c'était une de ses propres versions, mais rien de très mystérieux derrière cette fameuse serviette.
Merci encore, Florent Berryer. Je rappelle donc que l'exposition consacrée aux archives de Walter Benjamin se tient au Musée d'art et d'histoire du judaïsme jusqu'au 5 février, et que le catalogue reprend ses archives et les transcrit très utilement, et qu'on peut le trouver aux éditions Klinsic. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet: www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.